France Inter, franceinter.com.
Vivre en bonne société, collégialement, moralement et studieusement. Robert de Sorbon, devise de la Sorbonne. Ans d'histoire. C'était en Italie, il y a 800 ans, quelques jeunes gens de Bologne, mécontents de ce qu'ils apprenaient dans les écoles, des monastères ou des cathédrales, avaient décidé de choisir eux-mêmes leurs maîtres et de les rétribuer. Ils venaient de créer la première université, celle qui, au début du XIIIe siècle, allait servir de modèle à Montpellier, Oxford, Paris, Salamanque, Leipzig, Lisbonne ou Prague. En quelques années, toute l'Europe s'était couverte de ces communautés d'étudiants et de maîtres qui s'étaient associés pour enseigner et pour apprendre non seulement ce qu'on appelait les arts libéraux, la grammaire, la rhétorique, la dialectique, l'arithmétique, la musique, l'astronomie et la géométrie, mais aussi la médecine et le droit pour répondre aux besoins croissants des villes en juristes, en notaires et en médecins. Dès sa naissance, on le voit, l'université avait donc déjà une double vocation, l'acquisition et la diffusion des connaissances et la formation des cadres de la société. Une vocation contestée 800 ans plus tard par les étudiants de Nanterre et de la Sorbonne. Daniel Cohn-Bendit, le 22 mars 1968.
Il est clair que le mouvement du 22 mars ne veut rester à l'université, mais qu'il veut s'étendre en dehors de l'université, c'est-à-dire des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société, c'est-à-dire qu'ils refusent de devenir les futurs cadres de la société qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysannerie.
La fermeture de la faculté de Nanterre a eu pour conséquence la suivante, les étudiants de Nanterre réunis hier ont décidé de venir à la Sorbonne.
Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela, c'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Politiquement, il faut exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle.
Marie-Laure Le Foulon et Jean-Maurice de Montrémy, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était l'occupation de la Sorbonne en 1968, un grand moment dans l'histoire de l'université que vous rappelez dans un livre, L'Europe des universités, qui vient de paraître chez Gallimard Découverte. Alors les universités qui apparaissent, vous l'écrivez, il y a 800 ans, qu'est-ce qui existait avant Jean-Maurice de Montrémy? Qu'est-ce qui existait? Quel était l'équivalent de l'enseignement supérieur avant que soient créées les universités?
Nous sommes donc avant l'apparition des universités dans un monde qui est très, très massivement rural. L'Europe est d'abord une Europe rurale à cause de l'effondrement de l'Empire romain, de toutes les difficultés qui se sont trouvées, de la supériorité agricole des monastères qui sont les seuls centres de production de richesses et aussi de savoir. Ce qui fait que dans cette Europe d'avant le développement des villes, je crois que c'est un épisode important sur lequel on reviendra, l'essentiel du savoir s'apprend dans les monastères, bien sûr, puisque les moines sont les principaux détenteurs du savoir et surtout ceux par qui les textes et le savoir est transmis. Il n'y a pas tellement d'autres lieux où on peut avoir des manuscrits, des documents et des gens sachant écrire et lire, bien sûr. Et à côté des moines, il y a aussi les écoles des évêques, puisque toutes les, ce qu'on appellera plus tard école cathédrale, puisque les évêques aussi ont besoin de prêtres formés, de sachant lire et écrire, etc. Il y a c'est grosso modo les seules formations données. Quant aux maîtres du pouvoir, si je puis dire, les seigneurs ont, mais ça c'est pas des écoles, ils ont certains d'entre eux qui apprennent, je veux dire, par un système de précepteurs. Et en général, ces éducateurs qu'ils trouvent sont également des religieux, mais des religieux au service du Seigneur. Ils ne vont pas forcément dans les couvents ou dans les écoles.
Vous l'avez dit, donc, l'université est contemporaine de, non pas l'apparition, mais de l'essor des villes et de la bourgeoisie.
Oui, il y a une très belle formule de Raoul Glaber, qui était un moine de l'époque, qui a dit, une formule restée célèbre, qu'à partir donc du XIIe, XIIIe siècle, l'Europe se couvre d'un blanc manteau de cathédrale. Et Jacques Le Goff l'a très bien suivi la chose en disant l'Europe s'est aussi couvert des cathédrales du savoir que sont les universités. Donc ça veut dire que le mouvement est très fort. Il y a une remontée économique. Cette remontée économique provoque de la richesse et finalement un surplus de population, ce qui fait que très rapidement, les gens vont commencer à se rediriger vers les villes qui sont à l'époque extrêmement faibles. Il ne faut plus oublier les cités antiques, les cités romaines. Ce qui va être très important, c'est l'arrivée vers les villes, donc le commerce, les échanges, tout ce qui va s'y régler et ce qui va d'abord créer de la richesse, créer des services juridiques importants. On a beaucoup besoin de lois et de choses autour dans les villes. Ça va créer également des tas de métiers qui ont besoin de l'écrit et qui ont besoin de connaissances en toutes sortes. Et bien sûr, l'Église elle-même, puisque les villes deviennent un phénomène majeur, va s'y installer. Elle va sortir de la campagne et des monastères pour que se développe une église urbaine avec des cathédrales qui, là, vont devenir extrêmement importantes et autour de ces cathédrales du savoir. Et c'est pour ça que la ville est inséparable de l'apparition de quelque chose de tout. Alors d'abord, cette vie urbaine, c'est un phénomène politique sans précédent dans l'histoire du monde. C'est complètement original, c'est européen. Et à ça se greffe quelque chose de tout à fait original et d'inédit, c'est l'apparition des universités et en tout cas de toute la nouvelle transmission du savoir.
La première à Bologne. Alors, pourquoi Bologne ? Qu'est-ce qui s'est passé à Bologne pour qu'on dise c'est dans cette ville qu'est née la première université ?
Bologne est une ville énorme pour l'époque, 50 000 habitants, c'est beaucoup pour le Moyen-Âge. C'est une ville admirablement située parce qu'elle est entre la mer, les montagnes, il y a vraiment un nœud commercial et routier, et même routier par le large, si je puis dire. Donc c'est plein de marchands, plein d'hommes de loi, plein de juristes, donc ils ont besoin, tous ces gens-là ont besoin d'une formation et au fond ils ne reçoivent pas tout à fait toujours la formation dont ils ont vraiment besoin, ce qui fait que tous ces étudiants très typiques des populations qui sont de ce qu'on appelle des bourgeois, des habitants de la ville, c'est pas les bourgeois au sens où le disait Cohn-Bendit dans le discours qu'on vient d'entendre, c'est les habitants de la ville, et bien ils ont besoin d'études, et bien ils ont une idée géniale, comme les profs sont peu nombreux et ont tendance à voyager beaucoup, à aller de ville en ville, et bien ils se cotisent pour obliger les enseignants à faire des cours, à les faire régulièrement, et alors c'est un peu le contraire d'aujourd'hui, ce sont les étudiants qui obligent les professeurs à être présents et non l'inverse.
Et à s'associer dans des corporations, alors, des associations qu'on appelle universités.
Ça sera un peu plus tard, mais pour faire vite, en effet, peu à peu, il y aura le premier problème qui se posera entre les enseignants et les étudiants, ça sera justement d'essayer de renverser un peu la vapeur. C'est-à-dire que les enseignants, très vite, estiment qu'ils n'ont tout de même pas à dépendre de la demande, parce que les étudiants ont des demandes très utilitaristes et ont tendance à dicter aux enseignants aussi leurs conditions. Ce qui fait que les professeurs s'organisent, les étudiants s'organisent avec les professeurs, et ils forment un corps, une corporation, et le mot latin pour désigner les gens unis encore, faisant comme un petit univers, si je puis dire. C'est encore l'époque où le macrocosme et le microcosme sont une pensée très importante de la vision du monde. Et bien, ce microcosme représentant tout le macrocosme du monde et du savoir, c'est l'union des étudiants et des professeurs dans cette compagnie qui est l'université. L'université, ça veut dire au fond comme une compagnie.
Un modèle aussitôt copié dans tous les pays d'Europe, en France, en Espagne ou encore dans ce qui sera en Angleterre une des toutes premières universités du monde.
Je suis venu ici, Milord, dans le souci de discuter du retour de Walter à Oxford. J'ai eu bien peu d'élèves qui aient autant de dispositions que votre petit-fils.
Mais est-ce bien utile ?
Walter, avoir 20 ans et être aussi brillant me paraît décisif. Il serait dommage de ne pas continuer vos études, c'est pourquoi j'insiste. La connaissance est une force qui donne plus de victoires que n'en donnent les guerres. Il y a tant à apprendre, et rares sont les hommes capables de s'y consacrer. Chaque pays a des connaissances qu'il faudrait ajouter aux nôtres. Walter, quoi de plus grand que de consacrer sa vie à connaître ? Les érudits sont trop peu nombreux. Ce sont eux l'avenir de notre pays. L'Angleterre en a besoin.
In vain our hills and streams oppose. In vain our hollow ground, in faithless hillocks rose. To the rough tide shattered forth the pushing hero bore. To the rough Danube's winding shore. Shattered forth the pushing hero bore.
Et c'est un chant de cérémonie composé autrefois pour l'occasion de la remise des diplômes à Oxford, donc une des toutes premières universités. Il y a eu Paris, il y a eu Salamanque, il y a eu Salerne. Et alors, des universités qui très vite s'organisent et même sont en quelque sorte reconnus par les États, reconnus aussi par le pape. C'est lui qui fixe les premiers règlements, et notamment un qui m'étonne, un droit, un privilège que reçoivent les premières universités, le droit de grève, Jean-Maurice de Montrémy.
Alors avant d'arriver au droit de grève, il faut se demander en effet pourquoi le pape est intervenu. Et bien simplement parce que l'enseignement y est prodigué essentiellement par des clercs, c'est-à-dire des religieux, prêtres ou non prêtres, mais des religieux. Ils parlent tous le latin, les cours se font en latin, qui est la langue de l'Église et qui est la langue du savoir à l'époque, ce qui permet donc une circulation internationale, ce qui fait que la seule puissance internationale de l'Église, eh bien, c'est la papauté romaine. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est Rome, avec son pouvoir, qui va garantir à toute personne ayant réussi ses études ce qu'on appelle une licentia docendi, c'est-à-dire une licence d'enseignement. Et l'avantage de cette licence qui est reconnue par les universités, c'est qu'elle est valable partout. Si vous avez reçu la licentia docendi de Paris, vous pouvez enseigner à Oxford, vous pouvez enseigner à Rome, et réciproquement, quel que soit l'endroit d'Europe où une université reconnue par la papauté existe, vous pouvez enseigner, ce qui explique donc l'universalité de l'université. Alors, le droit de grève apparaît, si je puis dire, un peu dans cette affaire-là, parce que, comme on l'a dit, l'université, c'est une compagnie, une association d'étudiants et de professeurs qui doit échapper, puisqu'elle est internationale et puisqu'elle est liée à l'indépendance du savoir, d'une certaine façon, représentée à l'époque par l'Église, elle doit échapper à la mainmise des princes, à la mainmise des maîtres des villes, à la mainmise des seigneurs qui ont tendance à vouloir déjà un peu être plus directif. Et donc, il y a des disputes. Ils ont une vie en commun tout de même, hein, tous ces gens-là. Ils se disputent aussi avec les bourgeois du coin, parce que les étudiants, bien que clercs ou futurs clercs, sont très agités. Les Carmina Burana qu'on a entendu au début de l'émission le rappellent. Et donc, il y a de telles heures qu'à Paris, sous Philippe Auguste, des archers tirent sur les étudiants lynchent des archers, enfin, ça se passe comme ça. Mais l'université décide de faire grève, c'est-à-dire de se retirer de la ville, carrément. C'est-à-dire, l'université s'en va. Paris se retrouve sans
déjà
université.
Déjà turbulente. Hein.
Et alors, ça va se reproduire dans la jeunesse de Saint-Louis, quand Saint-Louis est encore jeune homme. Et pendant presque 2 ans, il n'y a plus d'université à Paris. Ils sont partis dans une grande ville de province. Et ça, alors, on s'aperçoit à ce moment-là que sans université, tout est bloqué. Parce que, au fond, tous les rouages, tous les gens qui font les cadres de l'État, du commerce, de l'Église, etc., ne sont plus là. Ça pose des tas de problèmes au pouvoir. Et ce droit de grève, il va être maintenu jusqu'au lendemain du procès de Jeanne d'Arc, où le pouvoir va interdire cette sorte de sécession des universités. Mais bon, vous verrez dans le livre pourquoi l'université de Paris s'est si mal débrouillée sur le droit de grève après.
En tout cas, des universités dans lesquelles on apprend des choses qui étaient déjà connues, ce qu'on appelait les arts libéraux, c'est-à-dire la grammaire, la rhétorique, hein, très importante, la dialectique, l'arithmétique, la musique, l'astronomie et la géométrie, mais aussi des matières nouvelles, comme le droit à Salerne ou encore la médecine à Montpellier, où étudiait un étudiant du XVIe siècle, un certain Michel de Nostradam, plus connu sous le nom de Nostradamus.
Cette femme est morte empoisonnée. Question. On trouvera le poison dans lequel des organes. Monsieur de Nostradam, voudriez-vous éclairer vos confrères étudiants ?
La réponse que vous souhaitez entendre est dans les reins. Les plus récents examens faits par le docteur Rabelais de Paris révèlent que de très grandes concentrations de poison peuvent aussi se trouver dans le foie.
Paris. Complètement absurde.
Si l'école de médecine qu'on a créée à l'université de Montpellier est la meilleure en Europe, c'est parce que nous pouvons y disséquer des cadavres.
Monsieur de Nostradam, avant de vous conférer un diplôme de docteur en médecine, je vous conseille très fortement d'apprendre ce que nous vous enseignons. Je n'ai pas de temps à perdre avec des étudiants tels que vous.
Montpellier, donc très connu pour ses études en médecine, avec d'ailleurs un étudiant que l'on vient d'entendre en train de discuter avec son professeur. C'était important, justement. Il y avait quand même, c'était pas simplement un cours magistral, il y avait ce qu'on appelait les disputes, Jean-Maurice de Montrémy, dans l'université.
Il y avait même assez peu de cours magistraux, c'est que de temps en temps, mes maîtres prenaient la parole, et ils prenaient la parole en général, alors pour tout ce qui était littéraire, si je puis dire, ils prenaient la parole pour commenter un texte, et donc les étudiants écoutaient son commentaire, et c'est grâce à ce commentaire qu'ils s'instruisaient. En médecine, il y avait évidemment beaucoup, hélas, déjà à l'époque, de discours théoriques. Il y avait des dissections et des choses comme ça, mais il faut bien voir que la médecine de l'époque est un discours sur le monde et sur l'univers et sur le corps, et beaucoup moins expérimentale qu'elle ne l'est devenue. Mais très rapidement, les élèves ayant bien écouté et lu les mêmes textes et ont pris l'habitude, et ça faisait partie de l'enseignement, de pouvoir faire des réponses. C'est-à-dire que il y avait des exercices qui étaient une discussion avec le maître, et c'était un jeu assez codé, mais ça obligeait l'étudiant à pouvoir, peu à peu, pouvoir discuter d'égal à égal avec le maître, à tel point que lorsqu'il arrivait vraiment à discuter d'égal à égal avec le jury, le maître et les autres étudiants qui étaient autour de lui du même niveau, eh bien, on lui donnait la licentia docendi, c'est-à-dire le droit lui-même d'enseigner.
Justement, quel était le cursus? On a entendu le doctorat, mais ça commence très tôt par le baccalauréat. Vous le rappelez, il n'y avait pas de distinction à l'époque entre le secondaire et le supérieur. Le baccalauréat, la licence qui permet d'enseigner, la maîtrise et le doctorat. Les mots sont les mêmes aujourd'hui.
Les mots sont restés les mêmes. On dit master, mais enfin master, ça vient de la même racine latine que le reste. C'est l'ex-maîtrise, si je puis dire. En fait, la durée des études au Moyen-Âge, pour ceux qui en font, mais pas tout le monde, c'est grosso modo ce qui va de notre lycée à l'actuel master. C'est à peu près les mêmes âges, l'âge moyen d'un élève de seconde et de première jusqu'à l'âge moyen du détenteur d'un master, disons, pour parler comme aujourd'hui. Et puis après, le doctorat au Moyen-Âge est tout de suite collé au master. C'est un super master, si je puis dire, qui se fait juste ensuite. Et il n'y a que deux spécialité qui échappe à ce temps relativement court, c'est l'enseignement de la médecine qui déjà à partir du moment est long. C'est grosso modo l'équivalent des 7 ans après le baccalauréat que nous avons aujourd'hui. Et le roi des enseignements, le centre de tout, qui est la science par excellence, c'est la théologie. La théologie, là, on devient maître en théologie, docteur en théologie vers 33-34 ans. Donc on a encore beaucoup, beaucoup de travail après le master.
Un enseignement gratuit, hein, il faut le rappeler, l'Église y tenait beaucoup puisqu'elle a la tutelle sur l'université, gratuit, ce qui suppose en contrepartie d'ailleurs, puisque c'est elle qui rémunère les professeurs désormais, ce qui suppose en contrepartie d'abord que les professeurs vivent plutôt comme des clercs, comme des religieux, ce qui suppose aussi une certaine soumission à l'enseignement de l'Église, au dogme de l'Église. Hein, c'était important la gratuité.
La gratuité est très importante, ça va rester le cas pendant tout le Moyen-Âge et ça reste encore en Europe la règle pendant très longtemps. Vous avez dit que l'université doit suivre l'enseignement de l'Église. C'est un peu plus compliqué car l'université est un laboratoire de savoir très important pour l'Église et c'est à l'université que se fixent peu à peu les règles. Ce qui fait que les disputes sur la doctrine vont souvent être le fait d'universitaires qui s'opposent les uns les autres. Et même on a donné à certaines universités le droit de se... Quand il y a des conflits en théologie, ce sont les universités qui se prononcent et qui condamnent certains de leurs membres, etc. C'est moins directement l'Église. C'est-à-dire que l'Église, le pouvoir de l'Église, l'évêque ou le pape, même s'ils veulent faire condamner des thèses qui ne leur plaisent pas, ils sont obligés de passer par l'université. Et les plus grands théologiens, même certains qui ont été canonisés, ensuite, enfin, un des grands maîtres du Moyen-Âge, c'est Thomas d'Aquin, qui a enseigné, comme on le sait, à Paris, qui était le plus grand esprit du Moyen-Âge et sans doute le summum de la pensée médiévale. Eh bien, Thomas d'Aquin, ça ne s'est pas fait en un seul jour. Il a eu beaucoup d'ennuis avec ses confrères, et donc c'est un peu difficile. Il faut bien voir qu'il y a des problèmes de discipline, mais ça se passe en dispute entre universitaires.
Une chose est intéressante aussi, ça rappelle Erasmus aujourd'hui, les étudiants voyageaient beaucoup, ils se déplaçaient à la recherche des meilleurs maîtres, Jean-Brice Mourny.
Ah bien sûr, oui, il y avait un marché. D'abord, il y avait les bonnes facs, les bonnes universités dans lesquelles on voulait enseigner, donc on essayait d'aller dans les meilleurs. C'est pour ça que Thomas d'Aquin est venu à Paris. C'était la plus importante université du Moyen-Âge. Et puis les étudiants eux-mêmes, pour divers besoins, oui, voyageaient beaucoup. Alors ce qui est très intéressant, c'était avant la grande rupture des guerres de religion, du protestantisme, du catholicisme, la rupture de l'Église d'ailleurs, c'était la venue massive pendant très longtemps d'étudiants du nord de l'Europe. Ça a été très important dans toute la formation intellectuelle du nord de l'Europe, qui bientôt a eu ses propres universités. Il y avait même le besoin de faire le voyage pour aller vers Paris, puis après pour aller vers les grandes universités italiennes et bien sûr pour aller à Rome. Et ça a été un mouvement d'idées constant durant tout le Moyen-Âge et même la Renaissance.
Parmi ces universités italiennes, il y avait Pise, il y avait Padoue, où enseignait Galilée.
Vous voulez savoir pourquoi les clercs et les professeurs ne se marient pas? C'est par respect pour les bonnes mœurs. L'Église doit faire respecter cette règle. Une règle que vous avez bravée, Galilée.
En 1592, vous étiez professeur à l'université de Padoue. Vous y avez fréquenté notre frère maudit. Giordano Bruno.
Je l'ai rencontré à l'université au cours d'une controverse. J'ai trouvé trop exalté et manquant de rigueur. Je n'ai pas eu envie de le voir davantage et encore moins de lui parler.
Tout de même, que d'indices. Vous rencontrez Giordano Bruno, l'hérétique, qui a voulu détruire le centre du monde, c'est-à-dire la Terre, pour y substituer un astre lointain, le Soleil. L'homme a été créé à son image par Dieu. Il l'a placé au centre du monde, ici, sur la Terre. Tout tourne autour de lui. En le niant, vous attentez à la dignité de l'homme, dont vous dénigrez Dieu lui-même, puisque l'homme est sa plus belle création.
Votre raisonnement théologique peut être renversé.
Alors on sait ce qui a suivi. Galilée a dû renier ses convictions pour ne pas être accusé d'hérésie en 1633. C'est une époque d'ailleurs où l'université est de plus en plus concurrencée par d'autres établissements. Le savoir, on va le chercher et on le trouve en dehors de l'université, Jean-Maurice de Mormy.
Oui, le vieux modèle universitaire est un peu brisé d'abord par la brisure de l'Europe, le fait que l'Europe devient entre guillemets national, que le christianisme est fragmenté, qu'il y a des oppositions extrêmement vives, enfin, ce sont des guerres incessantes, donc l'universalité a disparu, les États ont pris en main les universités, et il y a aussi toute la rupture du savoir, là, dont Galilée en est un cas, il y a toute la rupture du savoir liée à la Renaissance. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de tout cela, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que la pensée de la Renaissance, la pensée humaniste, qui est née à l'université, en Italie d'ailleurs, a très vite quitté l'université parce qu'elle a été captée par les milieux aristocratiques les plus brillants. Et on va avoir ce phénomène assez terrible jusqu'à la Révolution française, qu'il y a une magnifique avancée intellectuelle, qu'elle est réservée aux milieux aristocratiques, entretenue par les milieux aristocratiques, les cours royales, les centres de puissance. Alors l'université est abandonnée, quasiment laissée à elle-même, et tout ce qu'il y a de brillant et de connu gravite autour des cours, et c'est le phénomène des salons, bientôt la cour royale, puis les salons, et ce qui fait que le savoir que nous trouvons le plus beau, le savoir humaniste, savoir les Lumières, etc., est un savoir fondamentalement aristocratique.
Alors cette université, vous l'avez dit, supprimée pendant la Révolution, elle réapparaît sous Napoléon Ier en 1806. En Allemagne aussi, il y a un renouveau de l'université sous l'impulsion de Humboldt et qui fonde l'université de Berlin. Et puis en France également, où on réorganise, Louis Liard réorganise l'université, qui va être la même à peu près en France jusqu'en 1968. Un tournant dans l'histoire de l'université. Vous citez, parce que c'est vous qui évoquez cette période, Marie-Laure Le Foulon, vous citez Antoine Pro qui disait au fond que l'année 68 a marqué la naissance de l'université du 21e siècle.
Oui, exactement, parce que après les événements de 68, on a la loi Faure en France, qui est une loi qui a été adoptée par pratiquement tous les partis politiques, qui est une très très grande loi, et où on met en place les UV, les UER, qui sont encore aujourd'hui la norme, et où on supprime l'année propédeutique.
Alors c'est une université qui est évidemment transformée en même temps que la société, confrontée à l'augmentation massive des effectifs, à la concurrence des établissements privés, à l'augmentation des coûts et donc du prix des études, et avec elle le risque évidemment de voir les études supérieures interdites aux classes défavorisées. Et puis aussi, c'est une université qui doit harmoniser ses diplômes, son cursus avec celle des autres pays européens, et avec cette initiative notamment qui a été prise en 1987. France Inter, 20 ans plus tard, Bruno Duvic, le 5 décembre 2007.
20 ans, c'est un bel âge quand on part étudier ailleurs en Europe grâce au programme Erasmus. Et 20 ans, c'est également l'âge qu'atteint cette année ce fameux programme Erasmus. Il a été lancé en 87 par la Commission européenne. Le film L'Auberge espagnole a beaucoup fait pour sa popularité. Détail avec Sonia Bourran.
En 20 ans, plus d'1,5 million d'étudiants européens ont participé à un échange Erasmus. Au hit-parade des pays les plus souvent choisis par les jeunes, l'Espagne. Puis viennent la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie. Quant à ceux qui partent le plus étudier en Europe, on trouve en premier les Allemands, suivis des Espagnols, des Français, des Italiens, et bien loin derrière arrivent les Britanniques qui se classent après les Polonais.
Il a fallu que je me renseigne à ma fac sur les échanges universitaires européens. Ça s'appelle Erasmus, et c'est un bordel innommable.
Bonjour, c'est pour une demande de dossier Erasmus.
Bon alors, pour un dossier d'Erasmus, il vous faut l'accord de votre directeur de recherche ici, il vous faut l'accord, la signature de votre directeur de recherche là-bas, il vous faut l'accord...
Il y a de quoi, quand on entend ce qu'on entend, il y a de quoi dégoûter les gens d'utiliser Erasmus. Alors Erasmus qui concerne d'ailleurs 1% à peine de la population étudiante européenne, c'est-à-dire 17 millions sur 17 millions d'habitants, c'est pas, enfin 17 millions d'étudiants, 1%, c'est pas beaucoup, les bourses sont trop chères. Et puis surtout, il y a une grande disparité entre les universités, Marie-Laure Le Foulon ? Ça, l'université française se porte moins bien que ses voisines.
La France a un système dual. Nous avons les grandes écoles qui, elles, se portent très, très bien et qui forment les élites du pays. Et nous avons l'université pour, en gros, la masse. Et aucun autre pays européen n'a un système dual comme ça. Il se trouve que ce système n'est pas bien adapté à la mondialisation. On se prive de beaucoup de talents en ne réservant que les postes aux élites et aux grandes écoles. En gros, ça va en... Je pense que c'est ce que le nouveau gouvernement veut changer. C'est quelque chose qui va de c'est pire qu'il y a 30 ans.
C'est ça l'objectif de la loi Pécresse, justement, qui...
C'est d'essayer de faire que l'université ne devienne pas une garderie pour les étudiants après le baccalauréat. Je crois qu'avec 80% d'une tranche d'âge au baccalauréat, ça veut dire qu'on n'a pas bien orienté les élèves. Et ils se retrouvent à l'université, beaucoup en sociologie, psychologie, en sciences humaines, qui sont véritablement des sas qui ne déboucheront sur aucun métier, sur rien du tout. Pendant ce temps, on s'est privé peut-être de bons techniciens, de gens qui, en Allemagne ou en Angleterre, auraient été orientés dès l'âge de 12 ans, par exemple, en Allemagne, et qui aurait fait de merveilleux techniciens.
Ou de merveilleux cadres de la société. Justement, on a entendu au début Daniel Cohn-Bendit évoquer cette crainte de beaucoup d'étudiants. Au fond, qu'on laisse tomber les filières qui n'offrent pas de débouchés pour se concentrer, pour fabriquer, au fond, les cadres de la société. Une université très utilitaire. Cela dit, c'était un peu le cas au début. C'est à ça que servait l'université du Moyen-Âge.
C'est
dommage pour ces matières, justement. Les lettres, par exemple.
On aura toujours, je pense qu'aux États-Unis, par exemple, il y a encore beaucoup de chercheurs en sciences humaines, en littérature. Les grands chercheurs sur Sartre, Camus sont aux États-Unis. En ce moment, ils ne sont pas en Europe. Donc, on peut très bien avoir une université qui respecte la pureté du savoir et en même temps une université qui permet aux gens de trouver leur place dans la société en les formant.
Je suis frappé d'ailleurs de voir en lisant votre livre, Jean-Maurice de Mormy et Marie-Laure Le Foulon, c'est que sur l'essentiel, ça n'a pas changé, le vocabulaire est un petit peu le même, les vocations sont un peu les mêmes, transmission du savoir, acquisition des connaissances, formation également des maîtres, c'est assez extraordinaire.
En tout cas, ce que Marie-Laure Le Foulon montre bien dans ce livre, c'est que sous le mot université se cachent deux choses. Et l'exception française auquel on fait allusion et que justement Madame Pécresse tente de résoudre, c'est de faire que l'université soit, comme dans les grands pays européens, un endroit, comme en Angleterre, en Allemagne, où il y ait des enseignements scientifiques, il y a de la recherche, il y a beaucoup de moyens, il y a toute une symbiose avec les entreprises, etc. C'est le cas notamment, Marie-Laure Le Foulon en parle, en Angleterre. Et en France, on est resté segmenté en toutes petites unités qui ne se parlent pas les unes les autres.
L'Europe des universités, c'est donc le titre de votre livre, Marie-Laure Le Foulon et Jean-Maurice de Mormy, un livre publié aux éditions Gallimard dans la collection Découvert. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: La Rose Noire d'Henri Hathaway, Nostradamus de Roger Christian édité par Metropolitan Film, L'Auberge Espagnole de Cédric Clapiche disponible en DVD chez Studio Canal, ainsi qu'un extrait du téléfilm Galilée ou L'Amour de Dieu de Jean-Daniel Verheg édité en DVD par Coba Film Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Patrick Henry et Sophie Moreno, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les procès de Moscou.